Berle. Berle aurait voulu lui prouver qu'il existe des cœurs accordés, comme on le dit, et pour Proust, l'amour, et en tout cas le couple, n'est qu'un onanisme halluciné. Et Proust se retire dans sa salle de bain et commence par insulter son jeune ami et lui lance, dit Berle, des injures comme des pantoufles. Et finalement, cette bonne nouvelle qu'Emmanuel Berle voulait annoncer à Marcel Proust se conclura par la fin de leur amitié. Alors, on pourrait lire cette scène comme l'opposition classique entre l'expérience et la naïveté. Marcel Proust serait en quelque sorte investi du poids des années, tandis qu'Emmanuel Berle serait le jeune prétendant aveuglé par ses propres illusions. Or, on peut au contraire voir cette scène d'une autre façon. On peut comprendre la fureur de Proust comme une sorte d'accord avec son œuvre tout entière occupée à démolir les chimères amoureuses. Effectivement, la recherche du temps perdu est un gigantesque chantier de démolition de l'amour, mais c'est un chantier qui n'en a jamais fini, et c'est là où c'est intéressant, au sens où Proust passera sa vie à vouloir démontrer à ses lecteurs que l'amour est une illusion. Et au fond, on peut se demander s'il ne faut pas revenir d'une dernière illusion, celle qui consiste à dépeindre l'amour comme une illusion précisément. Dans le chant amoureux contemporain, nous sommes en quelque sorte partagés entre deux discours dominants. Le premier discours, qui est un discours de la déploration ou un discours du désenchantement, on nous explique soit que l'amour n'existe plus, qu'il a été brillant autrefois mais que l'époque l'a détruit, soit qu'il n'a jamais existé. Et de l'autre côté, nous avons en quelque sorte les professeurs d'absolu qui nous expliquent doctement que l'amour n'existe pas encore, que ce que nous vivons sous ce nom n'est en quelque sorte qu'une ébauche, qu'un fantôme, et que tout reste à faire en matière d'amour. Et ces professeurs d'absolu rejoignent une tradition occidentale assez prégnante depuis Platon, qui consiste à mettre l'amour au service d'un idéal plus élevé que lui-même. Chez Platon, dans le Banquet, l'amour était en quelque sorte la gradation que les corps observaient jusqu'à pouvoir contempler l'idée de la beauté. Dans toutes les écoles chrétiennes, l'amour sera en quelque sorte l'hommage que la créature rend au Créateur, jusqu'à pouvoir vivre ensuite dans la cité de l'amour, qui est en quelque sorte le paradis qui est promis par le christianisme. Et tout se passe comme si, au fond, l'amour devait constamment s'excuser d'être ce qu'il est, à savoir une affection humaine forcément imparfaite. Et donc cet écartèlement entre les deux discours de l'amour, je vais tenter de le suivre dans la démonstration qui vient. Dans une première partie, je vais m'interroger sur la notion d'amour libre. Qu'est-ce que cela veut dire ? En quoi cet oxymore nous concerne-t-il tous ? Dans une deuxième partie, je vais parler de la séduction et du marché de l'amour. Enfin, dans un troisième chapitre, je vais m'intéresser à la formule « je t'aime ». Puis je poursuivrai au-delà, bien entendu. Alors, premier chapitre, qu'est-ce que l'amour libre ? L'amour libre est une invention de la modernité. C'est une invention paradoxale, puisque,